Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, midi à Paris. Le journal présenté par Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Dans l'actualité, l'avancée diplomatique dans la guerre que se livrent depuis plus de 3 ans la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine a accepté la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours. La balle est maintenant dans le camp de la Russie qui ne s'est pas encore prononcée. L'autre grand titre, c'est la guerre économique lancée par les États-Unis à ses partenaires commerciaux. Les droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium voulus par Donald Trump sont entrés en vigueur. L'Union européenne la Chine promettent de riposter. Dans ce journal également, des manifestations contre l'austérité dans l'enseignement supérieur et la recherche en France. Des milliers de personnes, dont des enseignants et des étudiants, ont manifesté notamment à Paris pour dénoncer les coupes budgétaires. De réaction officielle russe donc à la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine. Ce matin, le Kremlin prend son temps. Il dit attendre d'être informé par les États-Unis sur cette proposition qu'approuve l'Ukraine. L'Ukraine a accepté l'idée de négociations immédiates avec la Russie, selon le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Il l'a dit à l'issue des pourparlers entre Washington et Kiev qui se tiennent en Arabie Saoudite. En attendant de savoir quelle sera la réponse officielle de Moscou, Achim Leipold a interrogé un spécialiste du conflit, Ulrich Buna. Selon lui, une réponse positive est possible.
La Russie, on le voit, essaye de rétablir au maximum les relations avec Washington et donc effectivement se positionner dans un refus complet d'un cessez-le-feu, c'est pas quelque chose qui serait vraiment constructif pour les Russes. Deuxième point, on sait que dans cette guerre, les deux protagonistes, alors effectivement les Ukrainiens un peu plus que les Russes, mais les deux protagonistes sont quand même essoufflé par 3 ans de guerre. Donc faire une pause, en fait, pour les Russes, ce serait pas forcément malvenu. Déjà pour essayer de se reconstituer un peu, on va dire, ses forces militaires. Et c'est d'autant plus vrai que, en fait, un cessez-le-feu de 30 jours ne réglerait rien sur le fond. Et donc finalement, les Russes, via un cessez-le-feu, pourraient acter le fait que tous les territoires qu'ils occupent sont de facto le leur. Et sans engager la suite, c'est-à-dire que l'objectif qui reste grosso modo que l'Ukraine soit sans garantie de sécurité, soit le plus faible possible pour qu'éventuellement les Russes reprennent le conflit. Dans ce cadre-là, avoir un cessez-le-feu ne serait pas forcément complètement défavorable à Moscou. Ça permettrait de faire plaisir à Donald Trump qui aura un accord rapide. Et finalement, ça n'obérerait rien d'éventuelles négociations futures sur lesquelles les Russes pourraient tout à fait faire traîner les choses.
Et ce matin, Varsovie indique que les livraisons d'aide militaire à l'Ukraine via la Pologne ont repris normalement à la suite des entretiens entre les États-Unis et l'Ukraine en Arabie Saoudite. En France, faut-il ou non permettre la saisie des avoirs russes gelés? Et si oui, pour en faire quoi? C'est l'une des questions auxquelles répondront les députés ce mercredi lors de l'examen d'une proposition de résolution sur le renforcement du soutien à l'Ukraine. Ce mercredi 12 mars marque une nouvelle étape dans la guerre commerciale que Donald Trump a engagée avec le reste du monde. Toutes les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis se voient appliquer dorénavant une surtaxe de 25% et même de 50% pour les producteurs canadiens. Mauvaise nouvelle de plus pour l'acier européen, déjà en pleine crise, c'est vrai notamment en France. Nathanaël Vitran, bonjour.
Bonjour Gilles.
Vous avez enquêté, Nathanaël, la situation inquiète particulièrement dans le nord de la France.
Oui, pour rendre ça concret, je vous propose de prendre l'exemple de l'acierie ArcelorMittal de Dunkerque. C'est l'un des fleurons de la sidérurgie française et aussi l'usine la plus polluante de France. Début 2024, le numéro 2 mondial de l'acier a annoncé un investissement d'1,8 milliard d'euros pour décarboner le site en remplaçant ses hauts fourneaux au charbon par des fours électriques avec le soutien de l'État français. Sauf qu'en novembre dernier, 2 semaines à peine après l'élection de Donald Trump, ArcelorMittal fait marche arrière et annonce le gel de ses investissements à Dunkerque.
Et pourquoi ce revirement?
Eh bien, le président d'ArcelorMittal France s'en est expliqué le mois dernier devant l'Assemblée nationale. Il évoque alors un contexte de surproduction mondiale et les règles européennes en matière d'émissions de CO2 qui pèsent sur les coûts de production de l'acier européen.
Dans le même temps, les producteurs d'acier chinois, par exemple, ne portent pas ce coût de CO2. Leur acier arrive en Europe à des niveaux de prix inférieurs à nos prix de revient. C'est une concurrence déloyale. Sans des mesures urgentes et concrètes, nos investissements en matière de décarbonation ne peuvent pas être décidés.
Et est-ce que les Européens ont entendu le message? On le saura dans une semaine. La Commission doit présenter un plan d'action pour l'acier le 19 mars.
Et en attendant, comment vit-on cette situation à Dunkerque?
J'ai posé la question, Gilles, à Gaëtan Lecoq, représentant syndical CGT à ArcelorMittal Dunkerque, très inquiet pour la pérennité du site.
Si ça ne bouge pas les investissements sur la décarbonation, notre espérance de survie industrielle, on va parler en années. Si Dunkerque tombe, ça va faire effet domino.
Une famille sur cinq du Dunkerquois, toutes les régions alentours, dépend directement ou indirectement d'ArcelorMittal Dunkerque.
Et pour autant, même si lui aussi pense qu'il faudrait mieux protéger les frontières européennes, il n'adhère pas aux arguments du groupe franco-indien.
S'il y a une surcapacité, pourquoi ils continuent à créer des capacités de production ? En Inde, ils veulent quasiment multiplier par 7 leur production d'ici 2030. Pourquoi ils investissent massivement au Brésil ? Pourquoi ils investissent massivement aux USA ?
Et pour le syndicaliste, en cas de désengagement européen d'ArcelorMittal, l'État français devrait se tenir prêt, comme l'a fait récemment l'Italie, à nationaliser le site pour le sauver.
Merci Nathanaël Vitran du service économie d'RFI. Votre dossier est à retrouver sur notre site rfi.fr. L'avion transportant l'ancien président des Philippines, Rodrigo Duterte, vers la Cour pénale internationale. Cet avion doit se poser dans l'après-midi à Rotterdam, aux Pays-Bas. Rodrigo Duterte a été arrêté hier à son arrivée à l'aéroport international de Manille, à la demande de la CPI. La Cour enquête sur la guerre contre la drogue livrée sous sa présidence. Et pendant ce temps, ses avocats ont déposé une requête pour demander son rapatriement à Manille. Le capitaine du porte-conteneur qui a percuté un pétrolier lundi en mer du Nord est un Russe de 59 ans, arrêté par la police britannique. Il doit être traduit en justice pour la mort présumée d'un membre d'équipage dans la collision. Ils étaient quelques centaines à battre le pavé hier à Paris contre l'austérité et les coupes budgétaires dans l'enseignement supérieur et la recherche. Les manifestants répondaient à l'appel d'une large intersyndicale représentative des enseignants et des étudiants. Au même moment, se tenait une réunion du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, un organe consultatif qui émet des avis sur les politiques universitaires. Reportage de Laurence Théo.
Le temps gris de ce mardi, sans la moindre éclaircie, est à l'image de ce qui se passe dans les universités françaises. Solveig est bibliothécaire universitaire. Les coupes budgétaires drastiques qui frappent l'enseignement supérieur et la recherche publique la concernent aussi.
Si on a moins de personnel, c'est plus compliqué d'ouvrir. On a éventuellement dans certains endroits moins d'argent pour acheter des ressources pour les étudiants. Donc c'est un gros souci. Et au niveau des formations, en fait, là on commence à voir, il y a des formations qui ferment, en fait, tout bêtement. Il y avait une formation X ou Y dans telle université, il y avait 100 places, il n'y en a plus que 50. Ou alors il y avait 50 places, il n'y en a plus du tout.
Main dans les poches, regard franc, Camille François est enseignante en sociologie à Paris 8. Le budget de son laboratoire va être amputé de plus de la moitié. Pour lui, la situation est grave parce qu'elle menace l'avenir des générations futures.
C'est important d'avoir une population qui est qualifiée, qui va à l'université, qui enseigne dans de bonnes conditions. Donc on préempte l'avenir et puis elle est grave la situation et elle est aussi très injuste parce qu'on sait qu'aujourd'hui l'université publique, c'est ce qui accueille dans une large majorité les enfants d'origine populaire ou des petites classes moyennes qui ont de bons résultats au lycée et qui veulent prolonger leurs études supérieures. Et cette casse en fait de l'université publique, elle sert aussi à venir grossir le marché des formations privées qui sont de moins bonne qualité bien souvent, qui aboutissent à ce que les étudiants doivent s'endetter pour les suivre. Et donc on continue en fait cette casse voilà, matérielle et aussi symbolique en termes d'image, de réputation de l'université.
Sur la pancarte écrit au gros feutre, suppression des filières, étudiants en colère. Victor est doctorant en histoire médiévale. Il explique que ce sont les sciences humaines qui sont dévalorisées.
On ne peut pas s'empêcher de faire le lien entre ce discrédit porté à la recherche, notamment en sciences humaines et sociales, et le manque de moyens. J'ai une collègue qui disait que c'est une entreprise de destruction de l'enseignement supérieur public français.
On retrouve Camille François. Il rappelle que la recherche publique comprend bien sûr les sciences fondamentales, mais aussi les sciences humaines et sociales. Pour lui, il ne faut pas séparer ces deux grandes familles.
On ne peut plus aujourd'hui travailler sur l'environnement, des questions centrales, cruciales comme l'urgence climatique, sans intégrer dans les équipes de recherche des sciences sociales, des sociologues, des anthropologues, des historiens, des historiennes, aussi des psychologues, parce que ce sont des phénomènes globaux qui touchent tous les domaines de la vie et de l'existence et qui donc font appel à toutes les disciplines. Et donc, la plupart des sciences fonctionnent main dans la main et elles œuvrent en tout cas pour essayer de défendre une connaissance gratuite et utile à la société, notamment face aux dangers qui la menacent comme l'urgence climatique.
Pour réfléchir à la suite à donner à ce mouvement de contestation, des assemblées générales dans les universités auront lieu un peu partout en France le 13 mars.
Reportage de Laurence Théo. Enfin, football au programme ce mercredi. La suite et la fin des huitièmes de finale en Ligue des Champions. Il y aura notamment ce soir le match Aston Villa à Bruges. Le vainqueur sera opposé au Paris Saint-Germain en quart de finale. Le Paris Saint-Germain vainqueur hier soir de Liverpool. C'est la fin du journal. Merci d'avoir écouté. L'information continue avec dans un instant reportage. Il est pratiquement midi 10 ici à Paris.